9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Caroline Roux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, une ancienne de la maison, on connaît bien votre voix ici, présentatrice désormais de C'est dans l'air sur France 5, c'est du lundi au jeudi à 17h45, mais ce soir, ce sera à 21h avec une grande soirée en direct. D'abord un documentaire de 90 minutes, puis un débat animé par vous en direct, je l'ai dit, le thème coronavirus, les leçons d'une crise inédite. L'idée de base, c'était quoi? C'était d'avancer, de voir plus loin, d'arrêter de remouler les vieilles rancœurs, c'était quoi?
L'idée de base, c'est qu'on fait une émission quotidienne, qu'on a accompagné cette crise comme vous l'avez fait ici à Europe 1 et qu'on voulait faire un bilan d'étape et que le déconfinement avait lieu le 11 mai, on s'est dit bah, fin juin on va essayer de savoir comment on peut tirer les leçons de ce qui s'est passé.
Je souris parce qu'il y a presque un jeu de mots involontaire dans votre phrase, c'est un bilan d'étape et un bilan d'État. Vous mettez en perspective les dysfonctionnements de l'État, vous commencez par les masques, sujet qui a cristallisé la colère des gens, vous visitez une usine qui fabriquait autrefois des chaussettes et qui s'est reconvertie dans les masques, autrefois c'est les chaussettes Labonal, c'est une marque qui existe, voilà, ils se reconvertissent dans les masques et on apprend grâce à vous, grâce à votre enquête, qu'avant d'être mis sur le marché, les masques doivent être homologués par la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Ma question, qu'est-ce que l'armement vient faire ici? Quel rapport entre une chaussette et un obus de 105? Non mais je suis sérieux.
Mais moi aussi je suis sérieuse. Effectivement, et il est formidable ce reportage qui a été fait, je tiens à le préciser, par Romain Besnénou. Et le chef d'entreprise qui fabrique des chaussettes, il tombe de l'armoire. Lui, il est de bonne volonté, il veut aider, comme tout un tas d'entreprises françaises qui ont été sollicitées pour faire des masques en tissu. Et puis, à un moment donné, il se rend compte qu'ils font une homologation. Et puis, il se rend compte qu'il faut valider son prototype, valider ses matériaux. Et au final, c'est aussi ce qu'on apprend dans ce film-là, c'est que les bonnes volontés se sont heurtées à l'appareil d'État.
À
une technostructure, à des process trop longs. Tout ça a manqué d'agilité. Et c'est pour ça qu'on voit aussi dans le film que les régions, les maires se sont emparés de cette problématique-là pour répondre plus vite.
Pour en parler, puisque vous parlez de ça, on voit Renaud Muselier, qui est à la tête de la région PACA, qui a lui-même commandé des masques en Chine, il raconte que c'est le parcours du combattant.
Il dit c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il faut vérifier les cartons. Voilà. Ça, on l'a beaucoup vu pendant la crise, mais on le suit et il nous raconte la façon dont il a procédé pour obtenir des masques.
Mais il faut planquer les masques comme si c'était des lingots d'or. C'est ça où c'est complètement dingue.
Il le dit. Hein, il donne un carton de masque à un maire qui a du mal à en trouver. Et il dit, le maire dit, ce soir, je les mets au coffre. Hein. C'était devenu une denrée rare.
Vous dénoncez les procédures trop longues, l'État centralisateur, la technostructure, et puis vous faites un rappel qui hérisse encore beaucoup de Français. C'était les propos officiels début mars au sujet de l'utilité ou pas des masques. Alors, on va entendre votre voix, Caroline Roux. On va entendre successivement Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé. Il a pris la succession après le départ d'Agnès Buzyn. Et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement.
Comment oublier qu'au début de la crise, le gouvernement a commencé par nous dire qu'ils étaient inefficaces.
Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un.
Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile.
C'était le 6 mars. Ça vous fait encore mal quand vous l'entendez?
Bah vous aussi, non?
Bah bien sûr. Comme vous avez travaillé jour après jour cette histoire de masque. Qu'est-ce qu'elle dit de notre système d'État? Quel enseignement vous en tirez? Je vous pose la question que vous allez poser ce soir à vos intervenants.
Bah en fait, sur la question des masques, la leçon que j'en tire, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui laisser penser qu'on peut habiller une réalité avec un discours politique. Il n'y avait pas de masque. En fait, il n'y avait pas de masque. Ouais. On avait détruit les stocks. Et donc, à un moment donné, il fallait un discours politique clair qui était de dire « on n'a pas de masque ».
Alors, puisque vous avez et vous réclamez un discours politique clair, et je vous suis là-dessus, je vais vous en faire entendre un. Il vient de vous, qui n'est pas clair.
Plutôt, ah bon,
c'est vous qui posez la question. Pas du tout, vous allez voir. Vous avez la chance de pouvoir interroger le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ouais. Votre première question est très directe, mais sa réponse est relativement floue.
Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Est-ce que vous mettez à la place des Français qui ont le sentiment, pardon, de rien comprendre sur la stratégie des masques? Ils ont le sentiment qu'on les a baladés et qu'on a dit « les masques ne sont pas obligatoires parce qu'on n'en avait pas ».
Ouais, je connais cette accusation qui est portée. Certains se disent « est-ce qu'il y a eu des mensonges ou mensonges d'État ?» J'ai pu lire ça dans un article de presse. Moi, quel est l'intérêt, si vous voulez, d'aller dire aux Français « on a tant de masques, je vais en déstocker ». Temps par semaine à telle et telle personne et j'en déstocke pour les personnes qui en ont besoin. Quel est mon intérêt? Je viens d'arriver en plus. Si vous voulez, depuis le premier jour, moi je me suis dit, de toute façon, il faut agir avec transparence.
Alors j'avoue, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Si transparence il y a, c'était pas dans cette réponse.
Alors,
je n'ai rien compris.
Il y avait une partie de la réponse où en fait toute la stratégie du gouvernement après, c'est de dire on a suivi les recommandations de l'OMS et on a fait ce qu'on nous a dit. À l'époque, l'OMS n'était pas suffisamment clair sur le port de masque. Mais ça ne tient pas parce que l'OMS était très clair sur les tests notamment et que là, on n'a pas suivi les recommandations de l'OMS.
On est bien d'accord. Deux commissions d'enquête parlementaires ont été lancées pour faire la lumière sur cette crise, aussi bien au niveau des masques, parce qu'il n'y a pas que les masques, mais aussi des tests, des traitements. Le ministre de la Santé et même le Premier ministre seront interrogés. Vous en attendez quoi ?
Bah, des explications, effectivement, sur ce qui a dysfonctionné. J'espère qu'ils le feront avec lucidité. Il y a aussi... Enfin, vous voyez...
J'ai mal posé ma question.
Ah bon,
je vais la poser différemment.
Reposez votre question.
Je vais la formuler différemment plutôt. Il y a Agnès Buzyn qui va être entendue cet après-midi, ancienne ministre de la Santé. Dans la recherche de la vérité, est-ce que les députés ont un pouvoir que n'ont pas les journalistes ? Est-ce qu'on peut les acculer à poser certaines questions, comme on a vu par exemple avec la commission du Sénat dans l'affaire Benalla ?
Je ne sais pas, je la regarderai avec curiosité. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant cette interview d'Olivier Véran, chaque mot était compté, chaque mot était pesé. Parce que derrière, il y a du pénal. Et il le dit d'ailleurs dans le film, dans l'interview. Il le dit. Il dit à chaque fois que je signe un document en ce moment, il va falloir que je rende des comptes. Je pense que la commission d'enquête parlementaire a un pouvoir. Ils peuvent auditionner l'ensemble des membres du gouvernement. Moi, j'ai posé les questions. Je ne sais pas s'ils auront d'autres réponses aux questions que j'ai posées. Je suis à peu près sûre, Philippe Vandel, qu'ils poseront ces questions sur les masques. Pourquoi on a détruit les stocks ? Pourquoi on n'a pas dit tout de suite aux Français qu'on avait un manque de masques ?
Caroline Roux, vous restez avec nous. La soirée spéciale, c'est dans l'air, c'est consacré au coronavirus. On vous retrouve juste après une courte pause.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Caroline Roux, qui présente ce soir en direct un C'est dans l'air spécial, c'est en prime time. Il y a d'abord un doc d'1h30 et ensuite un long débat animé par vous. Enfin, long, j'en sais rien, puisque je ne sais pas combien de temps il va durer. Combien de temps il va durer d'ailleurs, puisque c'est en direct.
Et dure une heure.
Agnès Buzyn n'est pas dans le documentaire. Pour quelle raison ? Est-ce que vous ne l'avez pas invitée ? Ou alors vous l'avez invitée, sollicitée, et c'est elle qui a refusé de répondre à vos questions ? Car
non,
je précise que dans le doc, c'est vous qui menez les interviews.
Oui, il y a quelques grands entretiens. Le parti pris du documentaire et de tous les documentaires qu'on a fait sur ce modèle-là, c'est de prendre des gens qui sont aux manettes. Là, c'était le cas. On a Olivier Véran, on a Martin Hirsch qui était aux manettes à la PHP, et on a Thierry Breton qui était à la Commission européenne et qui gérait les conséquences économiques de la crise du Covid. Donc voilà, c'était notre parti pris de départ. On n'a pas invité Agnès Buzyn, donc elle n'a pas eu à refuser. Après, on aurait été un peu coincé avec l'histoire de temps de parole.
Ah oui, parce qu'elle était candidate à la mairie de Paris.
Voilà.
Donc après, il fallait inviter d'autres gens. Voilà. Vous expliquez dans le sujet que le parent pauvre du système de santé français, c'est l'humain, c'est-à-dire le personnel, les salaires. Et puis vous donnez un chiffre, la comparaison entre la France et l'Allemagne. Là, sont les chiffres matériels. L'Allemagne a 5 fois plus de lits de réanimation que la France. Or, les deux pays consacrent à peu de choses près le même budget à la santé, 11% du PIB. Je l'ai appris grâce à vous. Budget équivalent. Mais alors, on se dit, où passe l'argent si l'argent en France n'est pas dans les salaires et s'il n'est pas dans le matériel ? Où est l'argent de la santé française ?
On revient à notre discussion du début. La technostructure, l'organisation, une suradministration du système de santé français. C'est ce qu'on apprend aussi.
C'est des gens dans les bureaux, à la photocopieuse.
Voilà, qui ne sont pas forcément opérationnels dans les salles de réanimation. Donc c'est une aussi des leçons de cette crise. Je pense, on parlait des masques tout à l'heure, on parle aujourd'hui du système hospitalier français. C'est le côté empesé de notre mode de fonctionnement qui manque de réactivité, qui a manqué d'agilité. Et sur le système hospitalier, c'est vraiment flagrant.
Et puis aussi une part politique et qui influe malheureusement. Vous montrez qu'au plus fort de la crise, toutes les frontières se sont fermées. Là encore, la France a tardé. C'est une décision politique parce que c'était, je me souviens, c'était une décision, une recommandation de Marine Le Pen. Donc on n'a pas fermé les frontières pour ne pas donner ce crédit-là à l'extrême droite.
Il y a eu pas mal de postures politiques, effectivement, sur la fermeture des frontières. Alors la réalité, c'est qu'au début, on ne savait pas bien s'il fallait fermer les frontières. Il y a eu tellement de vérités et de contre-vérités d'un jour à l'autre dans cette crise que la question des frontières n'y a pas échappé. Non, le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, c'est l'Europe qui a été incapable de coordonner un des fondamentaux de l'Europe, c'est Schengen. L'Europe a été incapable de coordonner la fermeture et même la réouverture des frontières.
Alors certains voulaient, d'autres ne voulaient pas.
Voilà.
Et je me souviens que quand c'était Orban voulait fermer les frontières, il était accusé de populisme. Et on disait on ne va pas tomber dans cette fange-là. Donc là encore, c'était une décision politique.
C'était une décision politique, c'était une réaction politique de ceux qui... Vous vous rendez compte ce que ça représente de fermer les frontières ? Je veux dire, c'est... Politiquement, la fermeture des frontières, ça fait référence à, effectivement, vous parliez d'Orban, une forme de nationalisme, de populisme.
Donc, c'est pour ça
qu'on
l'a
pas fait. Accepter de dire l'ennemi, c'est l'autre, l'ennemi, c'est l'Européen, le virus viendra des autres Européens, ça oblige à une gymnastique intellectuelle et culturelle compliquée. Donc, effectivement, au début, il y a eu un prisme qui était un prisme politique, qui n'était pas le bon, alors que la réalité, c'est que l'ensemble des pays qui ont été confrontés à ce virus-là ont fait la même chose, c'est-à-dire, à un moment donné, fermer les frontières.
Séquence passionnante, c'est la crise vue depuis l'Italie. Pourquoi l'Italie ? Parce que c'est le premier pays d'Europe qui a été touché. Et là-bas, le sentiment, pendant la crise, le sentiment anti-européen a progressé de 20%. Il est passé de 29% avant la crise à 49% d'Italiens qui désormais souhaitent quitter l'Union européenne. La ville la plus touchée, c'est Bergame. Vous avez interrogé son maire, il s'appelle Giorgio Gori. Il raconte la crise de son point de vue et la manière dont il estime que l'Italie a été perçue en Europe et notamment en France, perçue avec condescendance.
C'est naturel de penser que
on pensait que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni auraient utilisé l'avance qu'ils avaient sur nous pour mieux s'organiser. Ils avaient une à deux semaines pour se préparer. Mais non, tout le monde a continué à vivre normalement. Regardez en France. Un jour, Emmanuel Macron dit « Nous n'abandonnerons pas nos terrasses, nous n'abandonnerons pas nos apéritifs, nos concerts, notre façon de vivre. » Et puis 24 heures plus tard, terminé, il ferme tout.
24 heures plus tard.
Quelle arrogance, hein ?
Exactement.
On peut dire la même chose vis-à-vis de la Chine. On a regardé ce qui s'est passé. Quand on a appris qu'on fermait la ville de Wuhan, aux 12 millions d'habitants, on aurait dû quand même se dire, il y a un petit sujet. Mmh. On s'est dit, c'est la Chine. Quand le nord de l'Italie a commencé à lancer des appels à l'aide, c'était des grands médecins italiens qui disaient, on est sous l'eau, on n'y arrive pas, on est en train de craquer. Il y avait une forme de condescendance, vous avez utilisé ce mot, d'arrogance, reconnue d'ailleurs par Martin Hirsch au cours de cette interview-là, en disant, on se disait, on a le meilleur système de santé au monde, on est la France. S'il y a bien un domaine dans lequel on est bon, c'est sur la santé. Et ça, c'est vrai que là aussi, on parle de leçons, hein, c'est le titre de ce documentaire. Là, c'est une leçon aussi assez rude en réalité.
Dans le documentaire, vous avez évacué la plus grosse polémique de cette affaire, la chloroquine, et le professeur Raoul, pour quelle raison ?
On en a fait suffisamment parler. En fait, c'est une polémique, on s'est posé la question, on l'avait traité, et puis, finalement on s'est dit, bon, c'est un débat de scientifiques. Alors, on renvoie les scientifiques à leur façon de travailler. Mettez-vous d'accord. Essayez de savoir si The Lancet est une bonne revue crédible ou pas. Si la chloroquine... À un moment donné, on est tous devenus des spécialistes de la chloroquine. Ouais. Et puis ensuite, des stéroïdes. Et puis en plus, je ne sais pas quoi.
Il y avait même des sondages.
Il y avait des sondages. 56% des Français sont pour la chloroquine. Ah bon, je ne savais pas qu'on pouvait être pour un médicament. Donc en fait, on s'est dit, ça va perturber notre travail. Vous savez, c'est toujours un travail un peu pédagogique, un peu didactique. On a plutôt retiré ce sujet-là.
Il y a un débat ce soir animé par vous.
Oui.
Qui seront les intervenants et quelle sera la question posée ? Vous ne savez pas encore ?
Si,
c'est
bien
direct.
Sûr. Non, parce que Bruno Lina, évidemment, ça me fait hyper plaisir déjà de les avoir en vrai. Bruno Lina, il est membre du conseil scientifique, il est à Lyon. Je l'ai toujours eu par Skype, il fait le déplacement pour venir avec nous ce soir en plateau, ça me fait très plaisir. Il y a Marie-Paul Kieny de l'OMS, il y a Anne Rosenchère de l'Express qui est éditorialiste politique, qu'on voit dans le documentaire et qui est avec nous aussi. Et il y a un dernier invité qui est épidémiologiste, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Martin, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça ne reviendra pas.
On le trouvera ce soir.
Mais il est formidable, c'est un des meilleurs épidémiologistes de la place de Paris. Et il a un truc génial, c'est qu'il dit exactement ce qu'il pense. Donc quand il dit, vous lui parlez de la deuxième vague, il vous dit oui, effectivement, il y aura une deuxième vague et elle commencera le 15 août.
Ça sera à quelle heure le débat ? Vous le savez ?
Oui,
ça sera 22h20.
C'est ça, 22h20, à peu près. 22h20.
Caroline Roux, merci d'avoir été avec nous. Soirée spéciale, c'est dans l'air, consacrée au coronavirus. Le doc et le débat animé par vous. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 avec nous.